C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzy. Auteur Anton Tchekhov, écrivain, médecin, 1860-1904, russe, hétérosexuel. Œuvre Ivanov, pièce de théâtre, 1887. Personnage Nikolai Alexeyevitch Ivanov. La première didascalie d'Ivanov débute par le mot « jardin ». Un peu plus loin, il est dit « c'est le crépuscule ». Presque tout Tchekhov est là, dans ces trois mots de la première pièce qu'il a représentée, puisque Platonov avait été refusé et n'a été monté que posthume. Un jardin quand tant de pièces se passeront dans des jardins, et en province. Dans une des merveilleuses lettres qu'il a écrites à Maxime Gorki et qu'on trouve recueillie dans le volume « Merci, docteur Tchekhov », Tchekhov écrit « En province, on vieillit vite ». Comme c'est exact, et comme c'est sans doute même plus que cela, en province, on est vieux. Tous les personnages de Tchekhov, même jeunes, ont l'air vieux. En cours de pièce, on apprend qu'Ivanov a 35 ans. On aurait pu penser qu'il en avait 65. Crépuscule, vous dis-je, tout chez Tchekhov est crépuscule. Ces personnages, leur vie. Ils sont ruinés, inaptes ou dépressifs, parfois les trois. Aussi bien ils se suicident, comme Ivanov à la fin de la pièce. En même temps, ce sont des pièces remplies de blagues, ce qui les a fait parfois dire humoristiques, par Tchekhov lui-même aussi bien. Mais on a beau faire de l'humour, il est moins drôle au crépuscule. La blague peut être une expression du fatalisme. Les Russes en sont le plus bel exemple. Ils en ont fait sous les tsars, se moquant de la bureaucratie et de l'alcoolisme. Ils en ont fait sous le communisme, ils en font sous Poutine, et par exemple celle-ci, que j'ai entendue à Moscou. Tout ce que les communistes nous ont dit du communisme était un mensonge total. Malheureusement, tout ce que les communistes nous ont dit du capitalisme s'est révélé vrai. Tchekhov est en partie une expression raffinée de cet esprit. Je ne sais pas si c'est parce qu'il était médecin qu'il s'est intéressé aux états dépressifs. Pour cela, il suffit d'être humain. Assez de médecins inhumains ont écrit des choses d'une dureté impardonnable, n'est-ce pas Gottfried Benn, n'est-ce pas Louis-Ferdinand Céline? Montrer des personnages masculins faibles, cela paraît remarquable dans un pays comme la Russie où la virilité était et reste le modèle indiscuté du comportement masculin. Tchekhov a fait apparaître un nouveau type de Russe. Derrière les statues de bronze d'Alexandre III, les toques en fourrure des cosaques et les barbes sévères des popes, surgissait un homme désabusé, individualiste, civilisé d'une autre façon. Qui est Ivanov? Pour en parler, je reçois Christian Benedetti qui met en scène la pièce de Tchekhov en ce moment au théâtre de l'Athénée. Christian Benedetti, est-ce que Tchekhov donne la moindre indication physique sur son personnage?
Non, il ne donne pas la moindre indication physique. Et non, il ne donne aucune indication. Simplement, Ivanov est un nom extrêmement courant comme Durand ou Dupont. Donc en fait, c'est juste un homme. Monsieur, ça peut être tout le monde, dans la mesure où tout à coup, on décide de ne plus vivre dans cette société qu'on nous propose. Voilà, donc comme il ne refuse cette société-là, qui est hystérisée par l'argent, qui est structurellement antisémite, qui est une société qui est en train de basculer vers une barbarie vulgaire, lui refuse. Et il se met dans un coin pour lire, et simplement il s'efface. On a écrit souvent que c'était un homme de trop, parce que Tourguenieff avait écrit ce fameux livre, Un homme de trop, et c'est une bêtise, parce que c'est pas vrai du tout. C'est juste un homme fatigué. Et Tchekhov le dit dans sa correspondance, il est fatigué.
Quelle est sa situation sociale? Parce que Tchekhov lui donne un métier.
Oui, il a une, on va dire une situation qui est assez qui pourrait être assez confortable. Il gère des domaines et il est c'est un, comment dire, un gérant de domaine qui est plutôt aisé. Voilà, mais qui là, refusant ce système qui est régi par l'argent, il devient subversif, suspect, et il devient pour certains même un imposteur, puisque il est le héros d'un roman qu'il n'écrit pas, puisque tout le monde projette sur lui ce qu'il veut. Et que c'est aussi pour ça, probablement, qu'il s'appelle Ivanov. Chacun projette ce qu'il veut, et lui n'a même pas la force de répliquer, puisqu'il dit, à Lvov, au médecin, il lui dit, ma vie est exténuante. Voilà, il est fatigué, il a 35 ans, c'est le prototype, c'est le revers de ce que Tchekhov appelait l'excitabilité russe. Le revers, c'est qu'à 35 ans, on est crevé. Voilà, on est épuisé et il veut juste s'effacer et tout le monde s'entête à vouloir le redessiner et les femmes à le recolorier.
Alors en même temps, il lui arrive des choses, il faudrait qu'on raconte ce qui lui arrive. On apprend d'abord qu'il est ruiné au début de la pièce. C'est un élément important puisqu'on le
lui
reproche.
Non, c'est pas qu'il a plus d'argent, c'est qu'il a, il ne le fait pas travailler. C'est-à-dire que à l'acte 3, Lebedev lui dit mais va voir 1000 bars, il te doit 16 000 roubles. Donc il n'est pas ruiné. Simplement, il s'en fout. Il dit bah c'est comme ça. Il va ni demander l'argent qu'on lui doit ni rembourser l'argent qu'il doit. Pour lui, c'est la vie est ailleurs. C'est cet ailleurs qui est très compliqué pour les autres puisque eux ne voient que que l'endroit de l'argent comme un aboutissement. Tout le monde ne fait que parler d'argent. Dans toute la pièce, c'est le sujet principal, y compris dans les affaires amoureuses, il ne s'agit que de business.
Mais ce qui est intéressant, c'est que lui n'objecte rien. Il ne dit pas « je suis », comme vous dites, il ne dit pas « je suis contre ce système », il dit pas, il dit « je suis fatigué », il dit « je ne comprends plus », mais il n'objecte rien de positif à tout ce qu'on lui dit.
Non, parce qu'il a bien compris que ça ne sert à rien de se battre contre ça, il va juste disparaître. Il veut qu'on le laisse tranquille. Et puis, toute sa vie est effectivement, c'est très compliqué. Sa femme est mourante, c'est difficile. Voilà, elle est phtisique à l'époque. Donc, c'est la tuberculose. À l'époque, c'était contagieux. Donc, c'est compliqué de se retrouver ensemble dans un lit avec quelqu'un qui est contagieux, qui crache du sang.
On apprend très vite qu'elle va mourir par-dessus le marché.
Bah, c'est-à-dire que on apprend très vite.
Le médecin le lui dit.
Il dit à Ivanov, mais il dit à elle, ça va aller mieux, il faut aller en Crimée, etc. Simplement, Tchekhov était médecin, il a commencé à cracher du sang à 20 ans. Il est mort à 44, donc pendant 24 ans. Il a vécu avec cette maladie, donc il savait ce que c'était. Donc il en parle très précisément. C'est simplement que Anna Petrovna, la femme d'Ivanov, elle accélère elle-même sa mort parce que les émotions, parce qu'elle sent bien qu'elle est un poids, d'une certaine façon, aussi. Et que elle-même disparaît. C'est ça qui est très troublant, parce que c'est un geste amoureux, presque, de se mettre en danger pour, d'une certaine façon, libérer l'homme qu'on aime de ce poids-là qu'elle voit. Parce que, pour lui, c'est terrible de ne plus aimer sa femme. Mais comme c'est quelqu'un qui ne fait que dire la vérité, contrairement aux autres qui ne font que mentir, ou se mentir, ou raconter des ragots. Voilà, c'est tout le paradoxe de cet être qui ne fait que dire la vérité dans un monde où il vaut mieux cacher son âme profond.
C'est une pièce aussi où il y a beaucoup de franchise de l'espèce la plus brusque et sinon brutale. Ivanov dit à sa femme « je ne peux plus te supporter », les yeux dans les yeux. Le médecin lui dit non moins les yeux dans les yeux « je ne vous aime pas ». Qu'est-ce que c'est que ces indications de franchise vraie ou fausse?
C'est les rapports qu'il y a en Russie. Les gens sont très nets, cash. Il n'y a pas de choses par en dessous. Quand on n'aime pas quelqu'un, on lui dit « je ne t'aime pas ». C'est plus simple, ça va plus vite et ça soulage dans les rapports. Alors c'est des rapports qui sont un peu brutaux pour nous, parce qu'on n'est pas habitué à ça, mais... C'est jamais que des rapports humains normaux.
Donc ça n'est pas une indication spécifique au personnage que donnerait Tchekhov.
Pas du tout, non.
C'est russe.
Oui, et puis en même temps, c'est complètement... c'est des humains qui se questionnent sur la condition humaine. Donc c'est important d'être franc. Ça n'est pas intéressant de jouer Ivanov, Lvov et tout ça, comme souvent, d'ailleurs, on le joue comme si c'était... On dit quelque chose, mais en même temps, on pense autre chose. Non, ce qui est magnifique, c'est de voir que le médecin se pose des questions sur la condition humaine. Sinon, où est l'intérêt? Et comme dans Tchekhov, il y a toujours le sujet apparent et le sujet caché, tout le travail consiste à mettre à jour le sujet caché. Le sujet apparent, il n'y a pas besoin de le jouer. Il est écrit, il est dit, et voilà. Mais ce qu'il faut gratter, c'est derrière.
La femme d'Ivanov, vous l'avez dit, s'appelle Anna, mais ce qui s'est passé, c'est qu'elle a probablement changé de nom au moment de son mariage, puisqu'il l'appelle plus tard dans la pièce de son ancien prénom. Elle s'appelait Sarah. Et cette femme est juive et c'est une pièce où on entend sans arrêt des allusions et même des plus qu'allusions antisémites. On entend le mot youpin, on entend des lieux communs sur l'agent juif. Et il y a une réplique mystérieuse dans la bouche d'Ivanov et j'aimerais bien votre interprétation. C'est que juste avant la mort d'Anna, il a une scène avec elle et il la traite de sale juive et rien de plus.
Sale youpine.
Oui, sale youpine. Et il n'est rien dit de plus. Anna ne répond d'ailleurs pas.
Non.
Pour vous, qu'est-ce que c'est que cette réplique d'Ivanov?
Comme Anna Petrovna, dans ce moment, vient pour demander à Ivanov, puisque Sacha, la fille d'Elébedev, qui l'a embrassée au deuxième acte, elle lui dit « Pourquoi est-ce qu'elle est venue ici ?» Anna Petrovna n'est pas stupide, elle les a vus, elle a très bien compris la question. Donc c'est pas une scène de ménage. Elle vient lui poser, en fait, quand je parlais du sujet caché, c'est de ça dont il s'agit, elle vient lui poser une autre question. « Combien j'ai de temps à vivre ? Puisque tu te comportes avec moi de cette façon, et qu'elle sait que son mari est honnête, et qu'elle l'aime, s'il fait ça, c'est qu'il a une raison. » Et la raison, c'est qu'elle n'en a plus pour longtemps. Donc elle veut savoir. Parce que le médecin, tout médecin qu'il est, tout type honnête qu'il est, ne lui dit pas. Et si on relit Primo Levi, ne pas dire à quelqu'un qu'il va mourir, c'est lui dénier son humanité. Lui dire tu vas mourir demain, c'est lui rendre son humanité parce qu'il peut se préparer. Il n'y a que les animaux qui ne savent pas quand est-ce qu'ils vont mourir. Donc, quand elle pose cette question, et qu'elle voit que Ivanov ne peut pas répondre, alors elle l'aide. Et elle prend en charge tous les ragots que l'on raconte sur lui. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça n'est pas traité avec des adresses naturalistes. C'est comme si tout à coup, elle entonnait une rengaine, une ritournelle comme ça, où elle dit « Je sais, voilà comme tu es un type dégueulasse, tu m'as trompé comme tu m'as trompé. » Elle n'en croit pas un mot, c'est pour le faire réagir. Et lui répond, tais-toi sale youpine, il fait la même chose, c'est-à-dire qu'il emploie les mots qu'on emploie sur Anna Petrovna pour la faire taire, et elle emploie les mots que l'on emploie sur Ivanov pour le faire parler. Et finalement, il va lui dire, tu vas mourir, le docteur m'a dit que tu allais bientôt mourir, et elle meurt instantanément, puisque Tchekhov écrit après, elle d'une voix éteinte, quand est-ce qu'il te l'a dit? Donc il lui dit, enfin, cette vérité qu'elle attendait. Mais il faut parler, il faut passer par là, par ce chemin d'amour. Et justement, même si c'est un paradoxe, c'est pour ça que la pièce est parfois compliquée à recevoir, et elle est extrêmement violente. Je pense que c'est une des pièces les plus violentes de Tchekhov. Il n'a plus jamais écrit comme ça après. Et en plus, une pièce sociétale, on va dire. De façon profonde.
Pour en rester au rapport avec sa femme, vous parlez de ses rapports de franchise. En même temps, il y a aussi quelque chose, c'est qu'au début de la pièce, il refuse de l'accompagner en Crimée, le médecin lui conseillant de l'amener en Crimée, parce que ça serait bon pour ses poumons. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça?
Mais il lui dit, pour partir en Crimée, il faut de l'argent. Et il n'en a pas.
Or, il en a, puisque vous-même, vous m'avez dit qu'il pourrait demander l'argent qu'on lui doit.
Mais cet argent, pour lui, voilà, il l'a donné, il s'en fout. Donc, en fait, là, concrètement, il n'a pas d'argent. Et en plus, il dit, après, il faudrait qu'on m'accorde un congé, j'ai déjà pris un congé cette année. Donc, en fait, il dit, c'est bien beau partir en Crimée, oui, d'accord, mais bon. Et puis même, il sait très bien que ça ne la sauvera pas. On sait que la tuberculose, c'est incurable. Donc, c'est aussi une façon pour le médecin de dire, faites quelque chose. Pour lui montrer que, mais lui, lui dit pour lui montrer quoi? Un faux semblant, pour lui faire croire que. Elle va gagner quoi? Un an? Mais c'est pas vrai. Donc c'est ça, il lutte contre le mensonge officiel d'une certaine façon.
Alors, la fin la plus courante et la plus couramment traduite d'Ivanov, c'est que Ivanov prend un revolver à la fin et se suicide. Et vous, je crois que vous vous fondez sur la première version de la pièce où il meurt simplement, si je puis dire.
Il meurt sans qu'on s'en aperçoive. Tout le monde est en train de s'engueuler. Enfin, tout le monde est en train de demander à Lvov pourquoi il l'a traité de pourriture. Et lui, sur un canapé, il meurt. Enfin. Et Tchekhov dit qu'il meurt de, comment dire, le cœur brisé par l'insulte de Lvov. Parce que quand on fait un effort de dire la vérité, c'est vrai que les insultes, ça fait très mal. Les mots sont des balles. On peut mourir d'une insulte.
Bah, pardon, mais d'ailleurs, ça vaut pour lui aussi. Quand il dit à sa femme, tu vas mourir, ça la tue. On
bien
peut
sûr,
dire ça.
Bien, oui, ça la tue. Mais bien sûr. Donc, je pense qu'il y a effectivement la première version qui était la plus... qui est la plus elliptique, qui est pour moi la plus belle et la plus violente, puisqu'après il en a fait une version, on va dire, tranquillisante pour le spectateur.
Avec le suicide, vous voulez dire ?
Oui, puis parce qu'il a coupé certains moments, il a écrit des monologues où les personnages s'expliquent, et donc la pièce devient plus rassurante à voir, alors que lui-même avait dit, et c'est un précepte que moi je suis, puisqu'on est dans le principe de l'intégrale et que je monte tout, il faut effrayer le spectateur, ensuite, il réfléchira et s'intéressera à nouveau.
Nous allons maintenant entendre Ivanov, interprété par Michel Vitold, dans une traduction d'Antoine Vitez. C'est extrait d'une diffusion sur France Culture du 2 juin 1966, dans une réalisation d'Arlette Dave.
Autrefois, je travaillais, je pensais beaucoup et je ne me fatiguais jamais. Et maintenant, je ne fais rien, je ne pense à rien. Et je suis là, là de corps et d'âme. La société même de ma femme qui m'aime est insupportable. Vous êtes ma vieille amie, Chourochka, et vous ne m'en voudrez pas de ma sincérité. Mais je suis venu ici pour me distraire, et je m'ennuie aussi chez vous. Et je me sens à nouveau attiré chez moi. Alors pardonnez-moi, mais je vais m'esquiver sans dire adieu.
Je vous comprends, Nikolai Alexeevitch. Votre malheur est d'être seul. Il faut auprès de vous une personne que vous aimiez qui vous comprenne. Seul l'amour peut vous renouveler.
Quelle idée, Georges, comme mon malheur et vieux coq mouillé que je suis, d'avoir entamé un nouveau roman. Dieu me préserve d'un pareil malheur. Non, vous qui comprenez tout, il ne s'agit pas de roman. Je vous le dis comme devant Dieu, je supporterai tout, l'ennui, la névrose, la ruine, la perte de ma femme, la vieillesse prématurée, la solitude... Mais je ne supporterai pas, je n'endurerai pas de devenir ridicule à mes yeux.
Christian Benedetti, nous parlions de la fin d'Ivanov. C'est une pièce aussi où il y a beaucoup de figures de reproches. On se fait beaucoup de reproches. Le médecin en fait à Ivanov, le comte en fait à Ivanov. Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que, outre d'être une pièce sur ce personnage qui se détache comme une feuille de la société et qui laisse tomber les choses, un personnage pré-Beckettien peut-être, est-ce que ce n'est pas aussi une pièce sur la franchise? Et c'est faux bien fait.
Non, c'est une pièce sur le mensonge. Parce que la franchise est toujours un bienfait. Si on réfléchit bien, on passe son temps à mentir aux autres, à l'autre, et on voit le résultat. On crée des sociétés basées sur rien, sur un masque, sur du vide. La société... Aujourd'hui, la société dans laquelle on est étrangement en miroir avec la société dont parle Tchekhov. C'est pour ça que c'est aussi, probablement, par moments, difficile à regarder pour le spectateur, parce que c'est se voir soi-même. Et se poser la question de savoir, est-ce qu'on continue à vivre dans le mensonge et dans cette course effrénée à l'argent, à avoir plus, à pouvoir écraser l'autre, à dire encore... Voilà, à raconter ça ou ça, ou simplement à regarder l'autre comme un égal, à lui poser cette question sur l'humanité. C'est ce que le fait le médecin hein, à l'acte 3, parce qu'il lui dit « Pourquoi vous insultez la vérité qui est en moi ?» Et il parle, il pourrait être ami. Et simplement Ivanov lui dit « Vous ne me comprenez pas, je ne vous comprends pas, c'est comme ça. » Tant pis, on peut être un excellent médecin et ne rien comprendre aux gens, convenez-en. Soyez moins orgueilleux, et soyez moins condescendants et convenez-en. Et c'est vrai, c'est simplement... Et c'est ça qu'on a voulu justement traiter comme ça, pas comme d'habitude où les gens s'engueulent. Il s'agit pas de ça, mais justement de se poser des questions. Que l'écho de la question fasse effet et que on... Mais ils sont entraînés dans une société où c'est le... le mensonge qui prime. Et le résultat de ça, c'est que Lebedev, le mari de Zinaïda Savichna et le père de Sacha, boit. Parce que sa vie est insoutenable, il cache de l'argent, sa femme est avare, il cache de l'argent, lui, à la banque, de son côté. Enfin, chacun, le comte est même prêt à vendre son titre de comte, tout ce qui lui reste de dignité, de culture, il est prêt à vendre ça pour simplement avoir de l'argent.
Alors, il y a un personnage qui ne ment pas, ou qui a l'air de ne pas mentir, on n'en sait rien après tout, c'est la jeune Sacha. Quand elle est chez ses parents, chez les Lebedev, et qu'on entend des ragots sur la Youpine, sur l'argent des Juifs, sur l'argent que doit ou devrait Ivanov, et quelqu'un dit « il a épousé une Juive pour de l'argent, il n'en a pas eu ». Et elle s'élève contre ça et dit « ça n'est pas vrai, c'est un mensonge ». Et elle a l'air de dire la vérité là. Mais est-ce qu'après tout, est-ce qu'elle est naïve et qu'elle dit une chose qu'elle voudrait croire d'après vous? Ou est-ce qu'elle n'est pas encore plus rusée que les autres pour aboutir au mariage avec cet Ivanov qu'elle
pas
a toujours aimé?
Non, elle dit la vérité. Elle est comme les adolescents aujourd'hui qui en ont marre du mensonge dans lequel on les fait nager et qui disent à leurs parents, maintenant arrêtez les conneries. Arrêtez de dire n'importe quoi. Ça va. Non, elle dit la vérité et elle aime Ivanov, mais comme une enfant. Donc son amour d'enfant ne s'est pas transformé en amour de femme. Alors elle est déterminée, elle est butée, elle s'est dit c'est lui, je vais le sauver, elle va le colorier. Si c'est moi qui fais ça, alors il va s'en sortir. Et donc elle fait tout, jusqu'à... Même elle l'oblige, elle lui dit maintenant tu vas à l'église, c'est comme ça. Et Ivanov n'ose pas lui refuser parce qu'il ne veut pas... Il ne veut pas lui faire de peine. Et pourtant, il vient pour lui dire, écoute, non, j'ai vu que j'avais des cheveux blancs, quitte-moi. Quitte-moi, c'est mieux. Refuse-moi. Et elle ne veut pas entendre. Et c'est bien le syndrome de cette société-là. Donc, du coup, Ivanov se transforme pendant 10 minutes. Il se transforme dans un personnage cynique et, il devient plus abject que les abjects. Il est, d'ailleurs, on a travaillé sur une ressemblance avec Poutine. C'est une façon de dire ça va, c'est assez cynique pour vous. Vous avez assez peur, d'accord. Et après, il n'en peut plus, donc il meurt, parce que c'est pas tenable pour lui.
Alors, dans les rapports entre l'auteur et ses personnages, il y a une chose intéressante, même si elle est un peu anecdotique, c'est que c'est une pièce où il y a un médecin. Nous l'avons assez dit, et Tchekhov n'héroïse pas son médecin, loin de là. C'est-à-dire qu'il en fait une personne qu'on pourrait interpréter aussi comme ayant une haute posture morale parce que lui a les clés par un raisonnement hygiéniste en quelque sorte. Et en tout cas, le médecin n'est pas nécessairement quelqu'un de bien.
Non, mais non, il est un être humain comme les autres. Simplement, il est confronté à une réalité qui est de soigner quelqu'un et il ne peut pas empêcher sa mort. Donc, il n'est pas... Il a simplement, une connaissance plus spécifique de la maladie et il peut accompagner, il peut être. Et après, c'est autre chose. Après, il y a l'être humain. Ça, c'est la fonction. Et puis après, il y a l'être humain face à la posture des autres et à l'idée qu'il se fait de l'humanité. Et cette idée n'est pas forcément en accord avec la réalité du moment où il traite Anna Petrovna, c'est-à-dire qu'il y a des contradictions. On soigne quelqu'un et en même temps on voudrait qu'elle meure pour que son raisonnement trouve qu'on arrive à démontrer la réalité de son raisonnement en disant tu vois bien, regarde, j'ai dit qu'elle allait mourir et elle meurt. Tu vois que j'avais raison. Donc c'est ça, c'est cette dualité là, c'est une dualité d'homme. Et Tchekhov ne porte aucun jugement sur les êtres, jamais, jamais. C'est en ça qu'il a compris une chose fondamentale, c'est on lui a beaucoup reproché de ne pas faire un théâtre politique. Sauf que moi, je prétends le contraire, il était extrêmement politique parce qu'il a compris qu'il fallait faire politiquement du théâtre. Et c'est beaucoup plus efficient. Et c'est ce que Gorky a compris d'une certaine façon. Il ne faut pas oublier non plus que, par exemple, la fin d'Oncle Vania, Vania dit « que faire, il faut vivre ». Enfin non, il dit « j'ai mal », et puis Sonia lui répond « que faire, il faut vivre ». Et Vania était la pièce préférée de Lénine, et le livre de Lénine, c'est « que faire ». Donc il y a eu beaucoup d'inspiration politique dans l'œuvre de Tchekhov. Mais surtout, il a dépassé le théâtre, il a inventé le drame. C'est-à-dire une mise en dialogue et en perspective entre celui qui regarde et ceux qui font. Et c'est une façon de dire au spectateur quelle partie tu prends. Pas simplement de regarder comme ça, heureux et en digérant une représentation plus ou moins colorée de d'une réalité comme ça qu'on veut joyeuse pour passer le temps. Non, lui il montre la réalité du pays, la réalité du temps. Il dit aux gens quelle partie tu prends.
Bah, de toute façon, la chose assez frappante, c'est que le premier écrivain à qui Gorky se soit jamais adressé, c'est Tchekhov. C'est à lui qu'il a écrit ses premières lettres. Et une chose de très frappante de l'absence de jugement de Tchekhov, dans cette pièce en particulier, c'est qu'il ne met pas de mots sur les choses. Au début, je disais qu'on pourrait considérer qu'Ivanov est dépressif, mais jamais le mot n'est employé. À un certain moment, il emploie simplement... Quelqu'un lui dit « tu es une crapule mélancolique », mais c'est un jugement qu'on émet, et jamais de définition n'est faite par les mots, par des mots abstraits et généraux.
Crapule mélancolique, on ne lui dit pas.
Enfin, pas dans une crapuleuse mélancolie, pardon. C'est dans la traduction de Folio.
Ah oui, parce que c'est, nous, c'est pas... Non, regardez comment... Moi, je dis regardez. Spleen, cafard, tristesse. Voilà comment on le définit. Il n'y a pas d'adjectif.
Voilà,
c'est une surtraduction qui est pas juste parce que ça veut donner justement une inflexion, mais ça n'en donne pas. Ça permet à chacun de partir avec son Ivanov, justement dans ce que je disais, que quelle partie tu prends. Eh bien, chacun part avec son Ivanov. On n'est pas là pour dire voilà Ivanov, vous devez penser ça. Non. Chacun, par rapport à lui, peut partir en se disant « c'est un salaud, c'est un type formidable, c'est un escroc ». Chacun est face à soi-même, et comme disait Gogol, « n'accuse pas ton miroir si tu as la gueule de travers ».
Une chose qui est très frappante aussi, c'est que Ivanov le dit, il a eu un idéal à un certain moment, et que cet idéal a été déçu, et qu'au fond, il ne sait plus quoi faire avec ça. Il a eu une énergie pour soutenir cet idéal dans sa jeunesse, et au bout d'un moment, tout se décroche.
Oui, mais je pense qu'il fait état de... Il est comme énormément de gens qui sont là, qui croient en quelque chose, et puis c'est fatigant. Donc il baisse les bras, il arrête. Parce qu'en même temps, en face, rien ne donne de signe d'amélioration. Et que on a beau faire... Alors à la fin de la pièce, les BDF disent à Chabelski, mais... Non, mais tu verras, les gens sont stupides, Matvei, ils sont stupides, mais tu verras, ils seront intelligents. Et puis, dans 100, 200 ans, ils seront très intelligents. Puis si c'est pas maintenant, ça sera plus tard, ça sera leurs enfants, l'intelligence, ça prend des siècles. Mais bon, s'il faut attendre des siècles de modifications, on a le temps d'être fatigué, on a le droit d'être fatigué. Je pense que Ivanov, il est juste, effectivement, fatigué par cette société qui gigote dans son immobilisme.
Christian Benedetti, que vous a appris le personnage d'Ivanov ?
C'est Tchekhov qui m'apprend des choses. À regarder l'humanité. Voilà, à regarder mieux l'humanité encore. Voilà, mais en même temps, je peux dire qu'il m'a appris à l'aimer. Beaucoup.
À aimer lui-même Ivanov, vous voulez dire ?
Oui, bien sûr, mais j'ai appris à l'aimer beaucoup, cet homme.
C'était Personnage en personne, le 58e. La semaine prochaine, je parlerai du personnage de Victoria Grant, créé par Blake Edwards dans Victor Victoria.
Comme si j'étais assis là-haut, paradis.
Réalisation Clotilde Pivin. Attaché de production Daphné Abgral. Prise de son Claire Levasseur. Recherche Ina Sabine Dahuron.
Le paradis acquis.
Dans un instant, une saison au théâtre.
C'était
avec Joël Gaillot.
Grand jeudi, tous les jours paradis, de l'autre côté de la rue, mon paradis perdu. Soudain, ce rayon éblouissant, élu parmi ces milliers de passants, sans rêve, qui ne savent pas être.